Bonjour à tous, on est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse, toujours Shai à mes côtés. Shai, on va encore parler des Lakers. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais c'est un peu l'équipe qui rythme l'actualité. Un peu comme toujours, j'ai envie de te dire, c'est je pense, un sujet sur lequel les médias, on peut se reposer assez facilement. C'est une franchise populaire, c'est une franchise, en plus maintenant qu'il y a les LeBron James, qui attire encore plus qu'avant, alors qu'elle a toujours été au centre de l'attention médiatique. Et en plus, c'est une équipe qui se cherche un coach. Hier, on parlait de Gigi Redick. On s'était dit, c'est apparemment presque fait. Peut-être que c'est toujours le cas d'ailleurs. Peut-être que c'est effectivement Gigi Redick qui va avoir le poste. Mais il y a une rumeur qui concerne Anthony Davis sur le fait qu'Anthony Davis, Gigi Redick, ce n'est pas forcément son choix numéro un.
Mais tu sais, hier, on disait, on imaginait qu'il y avait peut-être plusieurs clans au sein des Lakers au niveau des décisionnaires, la proprio, le GM, LeBron, l'agence Clutch Sport. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à Anthony Davis, qui depuis quelques jours entend LeBron ne pas arrêter de dire que Kyrie, c'était son coéquipier préféré. Et c'est vrai qu'Anthony Davis, d'après les infos, c'est Mark Stein qui les sort, je crois.
Oui, donc sérieux, solide.
Donc c'est plutôt solide. Donc il explique que Anthony Davis, s'il pouvait choisir, il choisirait plutôt James Borrego, parce qu'il l'a un peu fréquenté à New Orleans avant de partir, quand Borrego était assistant là-bas. Et du coup, on se dit que c'est forcément un peu, l'atmosphère est peut-être un peu curieuse. Ils sont pas tous ensemble, donc ça doit communiquer par message. Mais je suis en train d'imaginer un groupe chat avec chacun qui donne son candidat, les discussions qu'il doit y avoir. Je pense pas que Davis soit aujourd'hui le joueur le plus influent des Los Angeles Lakers. Il est chez Clutch aussi, hein, mais je suis pas sûr que ce soit lui qui est le dernier mot là-dessus. Et a priori, ce sera quand même bien JJ Redick, parce que il est passé dans quelle émission il est passé hier, hein, je sais plus laquelle. J'ai vu un extrait de 15 secondes où ils essayent de lui poser la question sur le job, sur le fait qu'il serait tout proche de signer aux Lakers, et lui dit juste qu'il veut juste parler des finales là pour l'instant. Il dit, mais je sais plus comment il formule ça, mais il dit par contre, Shams Charania, toi et moi, on discutera après la fin de la saison. En gros, il a peut-être balancé l'info trop tôt avant que celle-ci doive vraiment sortir à la base. Mais je ne crois pas que ça remette en cause la tendance qui semble indiquer que JJ Redick sera le coach des Lakers la saison prochaine.
Je pense qu'on a assumé qu'Anthony Davis était dans le camp LeBron James, a priori. Anthony Davis, il a rarement manifesté une forme de... Mais cette saison, il l'a fait pour la première fois, j'ai envie de dire. Pas nécessairement une forme de leadership, mais une forme de... Genre, je veux prendre un peu les rênes de la franchise, je veux décider. Souvent, il était plutôt derrière les LeBron en retrait. Je parle pas de ce qui se passe sur le terrain. Je parle vraiment de la gestion en coulisses avec le statut de franchise player. Là, cette année, il a manifesté notamment quand il fallait dézinguer Darvin Ham, ce qui apparemment n'avait pas plu à ses coéquipiers, par exemple. Donc, il n'a pas hésité un peu à se mettre en rupture là-dessus. Alors, le mot est peut-être fort avec ses coéquipiers. Là, si on part du principe que JJ Redick, c'est un choix qui est validé par LeBron, il n'hésiterait pas. En tout cas, l'information sort d'une manière ou d'une autre sur le fait que lui, son candidat, c'est un autre. Alors, encore une fois, Mark Stein, c'est quand même des rumeurs. C'est quand même un insider très solide. Généralement, ça ne sort pas une rumeur par hasard. Donc, ça vient de quelque part. Donc, je trouve ça intéressant. Après, oui, je pense comme toi que ça ne change peut-être pas le processus. Mais tu vois, tu disais, ce n'est pas celui qui a le plus d'influence aux Lakers. Par contre, il faudrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas lui qui devrait avoir le plus d'influence? On ne sait pas si LeBron James y va rester.
C'est le joueur le plus important. Hein.
A priori, sur le terrain, mais même si tu parles juste sur l'âge et sur le futur, sur le terrain, c'est effectivement le joueur le plus important. Mais sur le futur, LeBron, là, il est free agent. Alors, peut-être qu'on imagine qu'il va rester aux Lakers. Mais derrière, LeBron, il n'a plus beaucoup d'années, encore une fois, je pense, à jouer. Anthony Davis, il en a encore quelques-unes. C'est lui la superstar qui est censé prendre le relais. Je pense que les Lakers ont compris qu'il ne prendrait jamais vraiment le relais, mais c'est quand même lui qui est censé prendre le relais. Et surtout, c'est lui, du coup, qui serait là en tant que star, susceptible. Si à un moment, ils veulent vendre un projet à une autre star en mode, regarde, on a déjà Anthony Davis, viens te joindre à ça. Ça ils ne vont pas dire, on a déjà LeBron. LeBron, il a 39 ans, 40 ans.
J'arrive pas à avec ce que tu viens de dire, c'est vrai que j'arrive pas à imaginer Anthony Davis... En franchise player unique. Là, on sort d'une saison où il a été vraiment. Il a fait une super saison. Il a été fiable physiquement. Sur le terrain, c'est le joueur le plus important. Il est dominant défensivement. Il est très précieux en attaque aussi. J'arrive pas à l'imaginer en tête de gondole d'un projet comme il a pu l'être à un moment à New Orleans. peut-être que je me trompe et qu'il va réussir à enchaîner maintenant les saisons sans trop se blesser, mais même sur ce leadership là dont tu parles, il a l'air tellement content d'avoir pu déférer toutes les responsabilités de leader, même médiatiquement, à LeBron, que je le sens pas dans ce mood-là. Donc après, que l'information sorte, c'est qu'il y a quelque chose. Soit il a parlé à quelqu'un, soit les agents veulent faire fuiter, sauf que c'est le même que LeBron, donc je comprendrais pas. Ça voudrait dire que LeBron il pousse pas non plus pour JJ Redick, et enfin c'est très compliqué. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on va devoir attendre la fin de la saison pour après les finales pour connaître le nom du coach des Lakers. C'est ce que m'avait l'air de sous-entendre JJ Redick lors de son passage, et écoute, on verra.
D'ailleurs, ça me fait penser, Mark Stein, il y a une autre rumeur concernant les Lakers et concernant le coaching. Il cite Monty Williams comme un candidat de l'ombre, une piste voilà, qui a été peu évoquée, mais qui serait quand même encore dans les tuyaux, celle qui mène à Monty Williams.
Il a signé 6 ans et 73 millions à Détroit. Il faudra le convaincre de bouger, même si c'était la cata sportivement.
Bah, il n'est plus à Détroit.
Monty Williams.
Il est toujours à Détroit.
Bah oui.
Williams, pardon. Il est toujours à Détroit, mais il vient de changer de GM.
Ils viennent de changer de GM. Ouais. Mais par contre, ils vont étudier son cas parce qu'il coûte très 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 cher et qu'il est peut-être pas adapté au projet. Mais ça, on aurait pu se rendre compte avant. En soi, il aurait été plus adapté à un projet comme celui des Lakers, sauf que ça s'est pas fait avant. Il a été bon avec des stars à Phoenix. Peut-être que aux Lakers ça aurait été mieux, mais je me dis que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut casser son contrat, faut qu'il coupe son contrat, faut qu'il soit qu'il se fasse virer, soit qu'il rachète son contrat, et qu'après.
Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ça peut pas se faire via un trade, parce qu'il y a des trades de coach.
On
en parle pas souvent, mais il y a des trades de coach. Doc Rivers, il avait été tradé notamment aux Clippers. Je crois que c'était dans ce sens-là. Les Sixers. Hein. Je crois que c'est aux Clippers en échange d'un second tour de draft. Donc c'est des trades anecdotiques. Mais là, je pense que c'est plus du point de vue où... Parce que s'il se fait virer, Monty Williams, il a toujours ses 73 millions. Hein. Il part avec. Hein. C'est garanti. Il peut même signer... Les Lakers peuvent même lui dire, vas-y, signe pour moins cher. Parce que, s'il te plaît, tu prends de toute façon l'argent du côté des Pistons. Oui, c'est vrai. Dans ma tête, c'était déjà fait virer. Persuadé qu'il va se faire virer.
C'est peut-être une annonce prophétique, on ne sait pas. Mais on avait discuté tous les deux en disant qu'on pensait que c'était peut-être la meilleure chose pour les Pistons de prendre un coach qui est plus sur du développement de jeunes. Et lui, était plus dans cette optique-là. Donc, ça doit être pour ça, je pense.
Et puis, changement de GM, c'est pas le coach. Généralement, quand il y a changement de GM, il finit par y avoir changement de coach. Pas toujours, c'est pas une science exacte. Hein, c'est pas une garantie, mais généralement, ça va assez de pair. On peut peut-être enchaîner avec une déclate Kyrie Irving sur LeBron James. Ça reste un peu dans l'univers Lakers. Voilà, il a répondu à LeBron. Je te laisse la parole sur ça.
Oui, c'est juste qu'hier on en avait parlé. LeBron avait été très très élogieux envers Kyrie, en disant que c'était le joueur le plus doué de l'histoire, qui regrettait l'époque où il jouait avec. Enfin, on sentait que c'était, il y avait un peu de nostalgie. Et donc Kyrie, qui était en conférence de presse avant le Game 1, qui est la nuit prochaine, forcément il a été interrogé là-dessus, et j'ai bien aimé sa réponse, parce qu'il y a à la fois de la reconnaissance pour les déclarations de LeBron. Il trouve ça sympa que LeBron lui ait fait ces compliments là, et en même temps il nie pas le fait que ça a été compliqué entre eux à un moment. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a voulu partir de Cleveland pour s'émanciper un peu de LeBron, et il le reconnaît assez volontiers dans la déclaration. Je vais te la lire. Donc il dit « J'apprécie, il y a beaucoup de gratitude de mon côté également. J'étais à une période différente de ma vie quand on jouait ensemble. On a tous les deux pu mûrir depuis et apprécier ce qu'on a eu la chance d'accomplir ensemble. » Et c'est là qu'il revient un peu sur les difficultés. Il dit « Des choses ont entravé notre relation quand j'étais un peu plus jeune. » Alors il dit pas ce que c'est, hein, mais... aujourd'hui, je suis capable de verbaliser ce que je ressens, d'être plus à l'aise dans mon espace, dans mes croyances et dans mes origines. Notre relation avec LeBron est différente grâce à ça désormais. Il me manque clairement l'avoir sur le terrain, en train de rendre les choses plus faciles, de remonter le terrain, de lancer le ballon dans les airs à un joueur aussi athlétique. C'était quand même super. Il y a un respect mutuel pour ce que chacun de nous deux apportait. Son leadership et le mien se complétaient bien. J'ai beaucoup appris de lui et j'en serai reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. Et à la fin, c'est la fin que j'ai bien aimé, en fait. Parce que bon, après, il dit, je repense à des moments, etc. Et il dit merci à LeBron pour ce qu'il a dit. Il dit, il sait vraiment comment déclencher un tourbillon médiatique. Maintenant, tout le monde ne parle que de nous. Et voilà, j'ai bien aimé la déclat. Elle était assez, c'était assez lucide, je trouve. Il dit que qu'il n'était pas la même personne à l'époque. Hein. Il était encore jeune, peut-être en quête d'avoir sa propre équipe, de pas juste être un sidekick. Il avait une traversée, pas une traversée du désert, parce qu'il a été très, très médiatisé et très, très surveillé, même sportivement. Mais là, il est arrivé à ce point où il est en finale NBA avec Dallas, où il a l'air d'avoir trouvé le spot parfait pour lui. Et j'ai bien aimé qu'il retranscrive un peu toute cette période-là.
Bah, écoute, si LeBron veut prendre 10 millions à Dallas, il peut aller signer pour 10 millions au Mavericks. C'est comme ça, ils jouent ensemble une dernière année. Qui sait, si les Mavs perdent, peut-être ce sera le challenge de « Allez, moi, je suis la pièce manquante qui va vous aider. »
Ouais.
Bon, les finales, d'ailleurs, ça commence ce soir. Et Kristaps Porzingis a confirmé qu'il jouerait le Game 1. Donc, grosse information quand même pour Boston. Je pense que c'est quand même le joueur clé de la série pour les Celtics. On en a beaucoup parlé, on était tous d'accord là-dessus dans le podcast. On a parlé avec Théo, avec toi, on a tous fait le même constat que Kristaps Porzingis, c'était celui qui faisait la différence pour Boston. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois coachs. J'ai vu un truc passer, je ne sais plus quel média a fait ça, mais il y a trois coachs qui ont été interviewés anonymement, évidemment.
Ouais.
C'est peut-être The Athletic qui a fait ça. Et les trois donner Boston gagnant avec ou sans Porzingis. C'était là en mode, non, avec ou sans Porzingis, ça change rien, Boston gagnant.
Ah ouais, ça j'ai...
Il fallait être courageux. On ne sait pas quels sont les trois coachs en question, mais...
Ouais, mais j'avais pas plus réfléchi que ça, parce qu'on sentait quand même qu'il était... Ils l'ont ménagé, ils l'ont bien préparé pour revenir, donc j'ai jamais imaginé qu'il ne jouerait pas le Game 1. Mais ça aurait été plus compliqué quand même, hein. Sur la rotation, on a déjà parlé sur la rotation intérieure, surtout avec ce qu'a déjà Dallas à l'intérieur. Dallas, même avec Porzingis, a des armes pour répondre à Boston et à cette menace presque Porzingis, à ce facteur X qu'on a identifié. Moi, je reviens à ce que je disais, c'est que je suis surtout content que les deux équipes arrivent quasiment à 100%, parce que c'est toujours le risque, on va dire, il manquait un tel. Là, que Porzingis soit là, c'est quand même super. Mais quand j'y réfléchis, Dallas a quand même... J'ai beau mettre Boston favori, Dallas a quand même le matériel pour gêner Porzingis, mine de rien. Dans la rotation intérieure avec Gafford, Derek Lively, maintenant Maxi Kleber, ils peuvent le faire sortir, ils peuvent l'obliger à courir. Il y a différentes options qui se présentent aux Mavs, ce qui ne m'empêche pas de penser que Boston est, comme je le disais, devant. Mais ça va être intéressant de voir la... comment Dallas va répondre à ce retour de Porzingis, comment les Celtics vont se réadapter à sa présence. Il n'y a eu aucun souci d'adaptation pour lui cette saison. Tout le monde a parfaitement combiné avec lui. Et voilà, ça va être un point essentiel déjà du Game 1. Ouais.
Moi, je continue de le dire. Hein. S'il n'y a pas Porzingis, je ne vois pas comment Boston y gagne le titre. Impossible.
Donc, il ne faudrait pas qu'il se reblesse en cours de route. Quoi.
Ouais, c'est non seulement il faut qu'il soit là, et moi, je pense qu'il faut qu'il soit là à 105% de ses capacités, et lui a reconnu qu'il n'était pas sûr d'être à 100%. Après voilà, s'il n'est pas à 100%, mais qu'il se rapproche vite des 100%, bon, ça peut le faire aussi pour Boston quand même. Mais je pense que c'est vraiment une clé sur trop d'aspects en fait, en attaque, en défense, protection du cercle. Gafford et Lively, ils peuvent être vraiment gênés par Porzingis. Je sais que tu la tournes dans l'autre sens. Moi, je le mettrais plutôt dans cette direction-là. J'ai l'impression que Porzingis, il a du talent. Il peut répondre de plusieurs manières différentes. Et en fait, Porzingis, il ne joue pas près du cercle de toute façon. Donc, ouais. Au contraire, il va sortir Lively et Gafford de la raquette. Et ça va poser des problèmes aux Mavs. On a vu à quel point Gafford et Lively, ils pouvaient être de vrais protecteurs de cercle. Je ne sais pas, contre la série contre les Wolves, j'ai l'impression qu'ils mettent trois comptes chacun chaque soir. Là, ils vont devoir sans doute plusieurs fois se retrouver au large, et tu peux pas les cacher sur un autre joueur des Celtics. Tu peux pas les cacher sur Jrue Holiday. En fait, les Celtics, ils jouent à five out, quoi. Il y a cinq mecs qui sont loin du cercle. T'auras pas le choix. Il y a beaucoup d'espace. Gafford, Lively, ils vont devoir s'écarter en défense, ce qui est clairement pas leur point fort. Et ça, c'est grâce à Porzingis. C'est Porzingis qui fait ça. Tatum a beaucoup parlé de ça d'ailleurs, notamment sur le fait que Porzingis c'était incroyablement altruiste, parce qu'il acceptait des fois de rester juste un mec dans le corner qui est là pour étirer les lignes, ce qu'a fait Chris Bosh par le passé, hein, par exemple à Miami, pareil, où Miami jouait avec cinq mecs qui s'écartent pour avoir plein d'espace pour laisser LeBron et Dwayne Wade drive ou jouer des coupes, etc. Là ça va être le cas. En plus, en défense, on en parlait dans le podcast, mais Holmgren a déjà un peu gêné Gafford et Lively. Il avait vachement réduit leur pourcentage au tir. On parle de mecs qui ratent quasiment jamais un tir. Lively, il n'a pas raté un tir dans la série contre Minnesota, alors qu'il y a Kat et Gobert en face.
Ouais, Gafford, il était sur une série à la Chamberlain, un moment où il ratait pas, il avait pas raté un
Ouais.
panier. Ouais.
Et Holmgren, par contre, lui, Lively, il est à 44% au tir, je ne sais pas si on se rend compte, 44% au tir dans la série contre Oklahoma City, parce qu'il y a Chet Holmgren qui, à chaque fois, venait se mettre en opposition sur chaque pick and roll quand ça roulait. Holmgren, il se mettait en opposition. Porzingis, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Alors, il sera sans doute en défense sur PJ Washington, donc il aura du terrain à couvrir pour venir en opposition, mais ça, il pose des problèmes, parce que même sur ça, Luka, il aime bien chercher le pivot adverse. Donc, il aime bien poser un écran. C'est ce qu'expliquaient d'ailleurs LeBron et JJ Redick. Ils font peu d'écrans petit-petit, avec un petit qui pose un écran pour Luka, parce que le but, c'est d'avoir le pivot adverse qui vient switcher. Sauf que là, Porzingis, il va défendre sur un petit. Donc, PG Washington qui vient poser des écrans. Il faudrait presque d'abord poser un écran sur PG Washington pour forcer un switch sur sur Lively, pour qu'ensuite Lively vienne poser l'écran avec Porzingis cette fois-ci sur lui. Enfin bref, je ne sais pas si vous arrivez à suivre, là, je ne l'ai pas bien expliqué, mais il faudrait une succession d'écrans pour que Porzingis vienne finalement se retrouver à défendre sur Luka. Et encore, je ne sais même pas si les Celtics switcheraient. Les Celtics sont plutôt bons sur ça pour décider quand il faut switcher, pas switcher. Voilà, donc je trouve que Porzingis c'est un acteur majeur de cette série, clairement.
On va te préparer une petite palette, la palette à Antoine avec un
non,
instrument
je suis pas,
digital.
Je suis pas assez fort pour ça. Je suis pas assez bon tactiquement pour ça.
Ouais, le gars va nous faire une démonstration tactique.
Non, c'est, je vous promets, je suis très loin, très très loin de ça. J'ai une admiration pour les mecs, les mecs qui arrivent à faire ça, tu sais, les aclos et tout. Je me dis, mais comment il a fait, quoi? Comment il voit tout ça? Qu'est-ce qui se fait chier à être journaliste ESPN? Il pourrait être GM ou quelque chose.
Bref. Ah bah, ça fait partie des mecs qui ont eu des propositions, il l'avait dit. Hein, mais c'est un autre job, c'est une autre exposition. C'est pas des mecs qui voulaient forcément être très très exposés. Il y a pas tant d'exemples que ça de gens qui ont passé la
barrière.
Hollinger, et ça a pas marché.
Ça a pas marché.
Voilà.
Mais c'est pas le meilleur Hollinger, personnellement.
Non, mais c'était un peu une référence dans le domaine à un moment quand il avait c'est lui qui a inventé le pi et le PER, c'est ça?
Ouais,
c'est, ouais. Voilà, bon, ouais, c'est deux métiers différents. C'est comme on va voir avec Reddick. J'allais dire, c'est comme joueur ouais. Analyste et coach NBA, c'est des métiers différents. Pas eu beaucoup de réussite pour l'instant, mais ça va être un défi intéressant.
Yes, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur CQFR. On est parti en freestyle,
absolument.
En improvisation sur Porzingis.
Bah, les prochains seront un peu plus logiquement, à part avec le game 1, voilà, forcément.
Ouais, demain. Ah, cet après-midi, par contre, il y a le replay de la late session.
Absolument.
Ça, c'est...
Que tu as teasé magnifiquement hier.
Ouais, il y a des gens dans les commentaires, ils ont dit que c'était une late session d'anthologie. Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là.
Mais... ah, disons que le dernier quart d'heure, il y a du Dark Pimel. Voilà, il y a du gros Dark Pimel. Je crois même que ton entrée en matière, parce que au moment où on passe en ligne.
Ouais, c'est très. Non, mais ça, c'est pas bon. Je pense que
petite
Twitch.
Petite sortie sur Nasser Al-Khelaifi, assez savoureuse.
Ouais. Un petit dérapage.
Petit dérapage.
Je pensais être en off. Tu vois, j'ai été piégé comme les hommes politiques qui arrivent dans les émissions.
Mais non.
On est en live là. C'est en direct.
Non, mais on a parlé évidemment de plein d'autres trucs. C'est juste que sur la fin était un peu épicée, comme on aime bien le faire parfois, de manière absolument involontaire. Mais oui, le replay sera en ligne. Sera en ligne dans l'après-midi. Voilà.
Et du coup, demain matin, CQFR du Game 1 avec un petit format un peu spécial. Vous verrez ça demain pour les matchs des finales. Petit format. Ah non, j'ai un dernier truc dont je voulais parler. Je me permets de refaire la pub pour une session. Parce que la dernière fois, je vous ai présenté, je ne sais pas si vous êtes allé voir, parce que c'est quand même légendaire. Hein. Enfin, je vous ai présenté, ce n'est pas moi. Je vous ai présenté le mec qui vous a présenté, le Bastec, époque Aztec, où c'était quand même du grand n'importe quoi. Les mecs devaient s'éclater les hanches. Là, c'est le même. Donc, Damien Grolard, je redonne son pseudo. Je vais arrêter de donner son pseudo. De toute façon, s'il nous écoute, il sera content de se reconnaître. Il a écrit tout un truc sur le coaching, motivation d'équipe et la théorie de l'autodétermination. Franchement, ce qu'il met en avant est très intéressant. Et il y a même, je vais mettre en avant un commentaire, il y a quand même un ancien joueur pro, donc Wilfried Aka, qui est venu participer au débat et qui a répondu lui aussi. Il a donné des insights très intéressants sur ce qui pouvait se passer dans une équipe pro. Je vous invite à aller lire ça. Je n'en dis pas plus, c'est sur basketsession.com. Voilà, si vous aussi voulez participer, soit vous n'êtes pas obligé d'écrire des sessions, vous n'êtes pas obligé de mettre des trucs en avant, vous pouvez aussi juste commenter.
En plus, maintenant, on met des sessions en avant avec la session qu'il fallait retenir sur le petit côté là.
Et ouais. Il y a le CQFR, il y a le SQFR. Ça commence à faire trop de. Je m'y perds, moi.
Avec un petit classement. Petit classement des top experts aussi. Vous verrez qu'on est plus dedans. Hein. Ça y est, on a quand même. Maintenant, on vous laisse un peu la main sur le classement des top experts.
Exactement. Et bah, tout ça, c'est disponible sur basketsession.com. Donc, allez jeter un œil. Honnêtement, en plus, le site est beau gosse, je l'ai déjà dit, mais je me le répète souvent, donc je vous le répète.
Tu peux, tu peux.
Voilà. Allez, c'est fini pour l'instant, auto-promo. On se retrouve du coup demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Ciao, à demain.